Alors normalement on est par téléphone avec Antoine Sroun, est-ce que vous m'entendez?
Oui, je vous entends bien.
Super, super. Antoine Sroun, hein, c'est bien comme ça qu'on prononce, c'est ça?
Oui, c'est bien ça.
Alors vous êtes le président de Wikimedia France, association pour le libre partage de la connaissance. Bah, merci d'être avec nous pour cette journée sans ordi 3. Vous êtes où vous? Alors vous êtes situé où là? Où est-ce que...
Là, je suis chez moi.
Paris, Bordeaux, Toronto.
Région parisienne. Oh,
alors, est-ce que vous jouez le jeu? Est-ce que vous êtes sans ordi? Alors, déjà, vous êtes sur un téléphone. Je ne sais pas si c'est un smartphone.
Alors, déjà, je suis sur un téléphone. C'est un smartphone, effectivement. Et je suis devant mon ordinateur. Donc,
c'est mal. C'est un peu compliqué. Alors, peut-être pour présenter un petit peu cette association. Bon, on va peut-être quand même d'abord commencer par le commencement. Wikipédia, normalement, les auditeurs et les auditrices connaissent un petit peu quand même cette encyclopédie en ligne. Peut-être d'abord rappeler un peu comment elle est née à la base.
Ça marche. Bah, du coup, c'était un projet d'une entreprise. Donc Jimmy Wales qui avait lancé ce projet avec son entreprise, avec l'idée de créer une encyclopédie de qualité. Ça avait été d'abord introduit sur la fin d'un projet avec relecture préalable, donc vraiment écrit par des experts, mais ça décollait pas parce qu'il y avait pas assez de rédacteurs, rédactrices qui ont participé au projet. Et ils ont fini par le lancer en ouvert, en fait, dans le monde sur Internet, en 2001. Et c'est à partir de là qu'en fait, on a vu qu'il y avait des personnes qui étaient intéressées pour participer au projet à rédiger des pages, du contenu.
Donc, à partir de... Donc ça, c'est aux alentours de quelles années, alors, Wikipédia?
C'est 2001. Le début de Wikipédia, c'est 2001.
À partir de quand est-ce que Wikimedia, l'association, elle, a pris le relais, peut-être, de l'entreprise privée?
En fait, à la base, comme c'est parti d'une entreprise privée, en fait, côté infrastructure technique, ça a été confié ensuite à une fondation par cette entreprise, donc la fondation Wikimedia, qui du coup depuis contrôle la partie technique, voire même juridique de Wikipédia. Les associations comme Wikimedia France et ces associations sœurs dans le monde, hein, il y a aussi Wikimedia Deutschland, Wikimedia CH pour la Suisse, ces associations-là, elles sont apparues en fait parce que les contributeurs et contributrices, qui sont en fait des personnes lambda qui se connaissent pas forcément, ont vu un intérêt, certaines en tout cas en personne ont vu un intérêt à se constituer en association, notamment pour avoir plus de poids côté politique, côté journaliste, côté institution, bibliothèque, musée. Et c'était vers 2004, du coup, c'est trois ans après.
Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne, en fait? Comment un article est rédigé? Qui décide qu'un article mérite d'être rédigé, etc.?
Ça marche pas, de souci. Pour la rédaction en elle-même, en fait, c'est assez... Enfin, le schéma habituel qu'on prend, c'est quelque chose d'assez... anarchique, à savoir qu'il n'y a pas de tête, il n'y a pas de chef de projet qui vous dit ce que vous devez écrire. Donc souvent, ça naît parce qu'il y a des zones où il n'y a pas d'articles. Il y a plein de plats de cuisine dans le monde où il n'y a pas d'articles. Il y a plein de patrimoine immatériel dans le monde qui n'a pas d'articles. Et donc, des personnes se disent, bon, bah, je vais me lancer, je vais écrire un article. Et ensuite, la personne publie cet article sur Wikipédia. Il n'y a pas de filtre entre la création et la mise en ligne. Par contre, ce qui se passe, c'est que, bah, en fait, comme dans n'importe quelle communauté, les autres contributeurs et contributrices sont susceptibles de regarder ce qui se fait de nouveau, de se dire, est-ce que c'est pertinent, est-ce que c'est bien écrit, est-ce qu'il n'y a pas de faute d'orthographe? Les classiques, et du coup, d'autres contributeurs et contributrices peuvent jeter un œil sur la première page et se poser la question, est-ce que effectivement ça mérite de figurer sur Wikipédia? Ça, c'est ce qu'on appelle l'admissibilité. Et il y a quelques règles basiques qui permettent un peu d'encadrer ça.
Alors, qui peut contribuer? Est-ce qu'il faut adhérer à une asso? Est-ce qu'il faut s'inscrire? Ou est-ce que n'importe qui peut contribuer à cette encyclopédie en ligne?
Alors souvent, je mets ça un peu comme dans un QCM, justement, dans un QCM sur Wikipédia. Est-ce qu'il y a besoin de faire des donations pour participer? Évidemment que non. Est-ce qu'il y a besoin d'être membre d'une association? Non plus, parce qu'en fait, l'association, elle vient en soutien des activités contributeur bénévole anonyme, sous pseudonymat d'Internet. En fait, c'est n'importe qui dispose de sources pour prouver ce qu'il raconte sur Wikipédia. Donc n'importe qui a accès à des journaux, de la littérature scientifique, des ouvrages spécialisés, peut participer.
Vous avez parlé de la question des sources. Comment ça se passe? Parce que on pourrait se dire, voilà, n'importe qui, je sais pas moi, je veux faire un article sur ma propre personne. Je peux m'auto-citer comme source et dire beaucoup de bien de ma propre personne, alors qu'en fait, je suis pas forcément une personne si fantastique que ça.
Ça, c'est toujours le sujet classique avec les biographies de personnes vivantes. En fait, les personnes sont encore vivantes, donc elles sont capables d'influer sur les sources de presse, de vidéos, etc. Et en fait, le mécanisme, il est de qualifier les sources. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit, dans les règles générales d'admissibilité, il faut que les informations, elles viennent de sources nationales, soient pertinentes. Sources souvent publiées à compte d'éditeur aussi, ça marche aussi. Mais ça, c'est pour l'admissibilité, donc le fait de figurer ou non sur Wikipédia. Ensuite, pour le contenu lui-même, en fait, chacune des phrases est susceptible d'être questionnée. Effectivement, s'il y a des points un peu de controverse, s'il y a un peu de points promotionnels, en fait, les autres contributeurs sont susceptibles de regarder, de juger est-ce que c'est de la pub, est-ce que c'est un peu trop élogieux, et de corriger.
Est-ce que vous contrôlez aussi la provenance en disant, voilà, si un article, il y a un trop faible nombre de contributeurs et qu'ils viennent tous à peu près du même endroit. Je crois que ça avait été le cas avec un article d'un élu où les gens de la mairie avaient beaucoup contribué à cet article. Comment est-ce que vous contrôlez ça?
Alors, en fait, ça vient vraiment de la communauté. Hein, lorsque vous dites vous contrôlez, en fait, est-ce que les contributeurs et contributrices contrôlent? Parce qu'en fait, on est tous un peu au même niveau sur Wikipédia. Sur le contrôle, nous, on croit en fait aux graines qu'on plante. C'est-à-dire que en fait, n'importe qui peut commencer un article en faisant même un article très court. Hein, ça peut être telle personne a été élue de l'Assemblée. Enfin, typiquement sur les députés, chaque année, en fait, à chaque élection de député, il peut y arriver qu'il y ait des nouveaux articles à créer. Et on peut très bien commencer par « la personne est députée de l'Assemblée nationale ». Point. Et en fait, nous, ce qu'on croit, c'est que quel que soit le point de départ, que ce soit créé par un petit groupe de contributeurs, tant que les règles sont respectées, tant qu'on travaille en respectant les règles de savoir-vivre, en discutant, en créant du contenu de qualité, en fait, peu importe le groupe initial. Évidemment, en fait, ça se sent si jamais l'article est un peu trop élogieux parce que c'est les personnes qui sont autour de lui qui l'ont écrit, par exemple.
Alors, au début de Wikipédia et encore aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'il y a beaucoup d'erreurs sur Wikipédia. Je me souviens par exemple de l'intervention d'un journaliste devant des collégiens ou des lycéens qui disait aux élèves vraiment ne faites pas confiance à Wikipédia, les gens peuvent faire des erreurs et écrire n'importe quoi. Est-ce qu'il y a des erreurs? Est-ce qu'il y a beaucoup d'erreurs sur Wikipédia? Alors, comment vous voyez les choses un peu?
Moi, ma façon de voir les choses, c'est que je pense, c'est même évident, qu'il y a des erreurs dans Wikipédia. Nous, en quoi on croit, c'est que le lecteur, la lectrice, a sa part de responsabilité lorsqu'elle consulte un article. En fait, nous, on encourage ça, en fait, le fait d'avoir un regard critique sur ce qui est produit. Ça, c'est pour l'aspect vraiment, la vision un peu sur les erreurs. Ouais.
Mais quand même, avec le nombre de contributeurs, c'est quand même assez limité, quand même, le nombre d'erreurs, non?
Ça dépend des articles, justement. Là, en allant plus loin dans l'analyse, en fait, évidemment, les articles qui sont les plus consultés parce qu'ils sont susceptibles d'être influencés, les articles sur la politique, sur les partis politiques, sur des faits d'actualité, en fait, ceux-là, comme ils sont beaucoup consultés, et bien en fait, il y a aussi, de l'autre côté, beaucoup de contributions. Il y a plein de gens qui sont intéressés pour améliorer ces articles-là. Et en fait, ça fait qu'il y a un équilibre sur les articles qui sont relativement visibles. Sur les articles, sur la masse des articles, par contre, il y a des études qui ont été faites qui montrent que globalement, La qualité globale, en fait, elle est plutôt bonne. Surtout qu'en plus, Wikipédia explore des sujets assez diversifiés. Hein. Là, si vous allez sur la page d'accueil de Wikipédia, là, il y a des articles sur des prototypes de monoplaces de Formule 1. Et je suis pas sûr qu'on puisse trouver n'importe où sur Internet ou dans les bibliothèques des livres qui parlent de ce modèle en particulier. Mais là, plus on va dans le détail, moins il y a de contributeurs spécialisés pour rédiger sur la F1, sur tel sujet. Et là, c'est là qu'en fait on compte beaucoup aussi sur le regard critique du lecteur et de la lectrice, de corriger et éventuellement de même de venir participer, de corriger lorsqu'il y a quelque chose qui pose problème.
Alors, je rappelle à nos auditeurs auditrices qu'on est par téléphone en direct sur Radio PFM 99.9 avec Antoine Sroune, qui est président de Wikimedia France, association pour le libre partage de la connaissance. On a parlé un petit peu des débuts de Wikipédia, de la fondation. Est-ce que Wikipédia gagne de l'argent? Est-ce qu'elle en perd? Comment ça marche un petit peu au niveau financement de cette grande, j'allais dire, entreprise, c'est dans le sens d'initiatives communes à beaucoup de gens.
Sur les plateformes en elles-mêmes, donc qui sont administrées enfin, techniquement par la Wikimedia Foundation, donc la fondation américaine, cette partie-là, en fait, elle est entièrement financée par des donations ou des subventions, donc soit par des entreprises, soit par des particuliers. Tous nos rapports financiers sont, enfin, tous leurs rapports financiers sont en ligne. Globalement, en fait, des associations en plus à but non lucratif, donc il n'y a pas de bénéfice qui est fait. L'ensemble des fonds, en fait, servent aussi bien à alimenter la plateforme que à gérer la partie juridique, parce que forcément, il y a des litiges juridiques hein, liés aux propriétés intellectuelles ou même aux droits des personnes. Côté Wikimedia France, nous, comme on vient en soutien aux contributeurs et contributrices, nos actions, elles sont aussi financées par des donations ou du mécénat. Et du coup, on a un budget à l'équilibre chaque année, parce que c'est ce qu'on vise hein, en tant qu'association.
Mécénat, du coup, des entreprises peuvent aussi voilà, donner de l'argent. Est-ce que ça ne risque pas aussi d'influencer le contenu du média?
Ça, c'est vraiment toute la partie éditoriale, le choix du contenu. Elle est vraiment séparée parce qu'en fait, elle est portée par les contributeurs et contributrices de façon anonyme, sous pseudonyme, dispersée à travers le monde. L'influence qu'elle peut avoir, c'est uniquement sur la partie fondation elle-même. Et quand bien même, justement, la fondation américaine est très vigilante là-dessus. C'est-à-dire que lorsqu'il y a des dons qui sont faits par Google ou des entreprises de ce type-là, il y a un regard bien spécifique à ne pas se laisser influencer par ces décisions-là. Côté Wikimedia France, il n'y a pas justement non plus de lien avec le contenu même du site. On veille à ce que le mécénat, ce soit vraiment une forme d'aide, de soutien, tant qu'il y ait de recherche de co-bénéfices en face, en fait.
Est-ce que vous considérez que Wikipédia fait partie de ce qu'on peut appeler les communs? Voilà, quelque chose qui est partagé par un grand nombre de personnes, par tout le monde potentiellement. Et comment vous vous situez aussi par rapport à une certaine appropriation capitaliste d'Internet qu'on voit grandissante ces dernières années?
Clairement, on est vraiment dans la définition des communs, donc vraiment un U-Ressources, Wikilia, et les autres projets, Wiktionnaire, Wikisource, Wikidata, tous les projets qui hébergent du contenu. On est vraiment dans cette notion de ressources qui est gérée par une communauté, gouvernée par une communauté qui fixe des règles de fonctionnement. Donc là, on est vraiment là-dessus, hein, sur un usage partagé, ouvert, qu'on a choisi sans publicité parce que on pensait que justement ça pouvait avoir un impact sur le contenu, sans mise en valeur de certains articles. Il n'y a pas des articles les plus tendances sont proposés de par algorithme, c'est vraiment les lecteurs et lectrices qui sont libres de choisir ce qu'elles lisent. Et sur la partie appropriation commerciale, c'est vrai que on est de plus en plus enfermé dans des plateformes. Je pense notamment aux réseaux sociaux avec des comptes différents, avec des systèmes différents. Il y a le contenu qui est derrière des paywalls, et puis il y a même l'arrivée de l'IA qui change un peu l'écosystème en créant beaucoup de contenu pas forcément de bonne qualité et vérifiable. Nous, chez Wikipédia, On croit en fait à la disposition licence libre. Ça, c'est un des sur les principes fondateurs de Wikipédia. Il y en a un qui dit que Wikipédia est publié sous licence libre. Que l'idée, c'est que la licence Creative Commons garantit un libre partage du contenu et même une réutilisation commerciale, dans le sens où n'importe qui devrait pouvoir l'utiliser, que ce soit dans ses travaux personnels, mais que ce soit aussi des travaux dans les entreprises. Nous, on croit vraiment ce libre partage, sans qu'il y ait cette relation de marchandisation de la connaissance.
Encore deux petites questions, si vous voulez bien, Antoine Sroun. D'abord, sur les contributeurs et contributrices, combien de personnes, par exemple en France, contribuent régulièrement à Wikipédia et un peu quelle est leur motivation finalement parce que bon, ça, c'est quand même du travail bénévole, j'imagine. Quel intérêt, quelle motivation sont les leurs?
Alors, les contributeurs et contributrices francophones, ça représente 17 000 comptes qui procèdent à des modifications sur Wikipédia par mois. Donc, ça fait 17 000 personnes, globalement. Sur les motivations elles-mêmes, en fait, c'est assez varié. Il y a vraiment plein de populations en tranche d'âge. Il y a des plus jeunes aux plus anciens. Et en termes de motivation, ça peut être simplement d'apprendre sur un sujet. Il y en a qui veulent apprendre grâce à Wikipédia des connaissances et ensuite les partager via Wikipédia. Il y a tous ces aspects aussi culturels, de culture régionale qu'on retrouve, notamment par la conservation des langues, l'enregistrement de vocabulaire dans des langues régionales. Ça aussi, c'est un des moteurs. Il y a globalement aussi toute la question de la qualité. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont soucieux de préserver la qualité de Wikipédia. Et donc, il y a ce qu'on appelle des patrouilleurs qui vérifient la qualité du contenu, qui s'assurent que le contenu soit de qualité.
Là, promis, dernière question, une double question peut-être, mais il y a Wikipédia, mais il y a aussi de Wikimedia, il me semble, pour les plus jeunes, parce que voilà, il y a peut-être des familles qui nous écoutent. Il y a Wikis aussi, qui est un jeu de société, il me semble, autour un peu de la recherche de sources. C'est ça, vous développez d'autres outils que l'encyclopédie en ligne ou des outils ainsi adaptés?
La communauté s'est bien rendu compte qu'en fait, en partant de Wikipédia, qui est donc, comme le nom indique, une encyclopédie, en fait, il y avait matière à créer d'autres projets. Donc, il y a typiquement le Wiktionnaire, qui est un dictionnaire libre, qui contient, avec une petite ambition, tous les mots de toutes les langues, dans toutes les langues. Il y a aussi Wikisource, qui héberge des livres dans le domaine public, qui sont retranscrits. Une banque d'images qui s'appelle Commons, Wikimedia, qui est une banque d'images avec 60 millions de contenus, je me souviens plus. Ça évolue, je crois que c'est même passé à 100 millions récemment. Et vous évoquiez du coup, donc ça c'est tout ce qu'on appelle les projets Wikimedia. Toute la galaxie un peu de projets Wikimedia. Et vous évoquiez Wikidia, qui est du coup l'encyclopédie pour des lecteurs âgés de 8 à 13 ans. Et ça c'est un projet un peu à part, créé par une communauté différente, mais qui partage justement des valeurs. Donc ça c'est vraiment plus adapté en termes de niveau de lecture, mais il y a aussi des projets qui sont menés par des écoles sur Wikidia. Et au-delà de tous les projets de rédaction de contenu, bien sûr, il y a tout ce qui est autour, c'est-à-dire de la sensibilisation, des interventions à la radio, ça peut être des partenariats avec des ministères, comme le partenariat qu'on a mené avec le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, sur la mise en place de profils contributeurs-contributrices dans des universités, pour soutenir justement la participation des universités. Vous mentionnez Wikis, là c'est vraiment sur la partie plus jeune, d'éduquer aux médias. Parce que nous, chez Wikipédia, on croit que, justement, il y a vraiment une place au lecteur d'être acteur dans son utilisation de l'information.
Antoine Sroun, merci. Je rappelle que vous êtes président de Wikimedia France, association pour le libre partage de la connaissance. Merci d'avoir participé à notre journée sans ordi 3 sur Radio PFM 99.9. Et bonne continuation à vous. Bonne journée.
Bonne journée. Merci.
Au revoir.
Au revoir.